France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal. Julie Pacaud, bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. J-1 avant l'ouverture de la COP30 au Brésil. Ce rendez-vous annuel crucial pour l'avenir de la planète s'ouvre dans un contexte quelque peu déprimant et sur une chaise vide, celle des États-Unis qui n'envoient pas de délégation officielle. Les États-Unis dont le président Donald Trump célèbre demain sa nouvelle alliance avec un ancien djihadiste. Le président intérimaire syrien Ahmed al-Shara est reçu à la Maison Blanche. Enfin, nous commémorons pour commémorer les attentats du 13 novembre 2015 sans peur. C'est ce que souhaite en tout cas l'Association française des victimes du terrorisme qui a organisé aujourd'hui une course pour la liberté avant une série d'hommages prévus cette semaine, 10 ans après les attentats les plus meurtriers perpétrés en France. La COP30 s'ouvre donc demain dans la capitale amazonienne à Belém, au Brésil. 10 ans après l'accord de Paris, pas d'effervescence ni d'enthousiasme. Les efforts des pays restent très insuffisants pour limiter le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Car le réchauffement à 1,5 degré, limitation fixée par l'accord de Paris, est déjà en voie d'être dépassé. Et que cette COP s'ouvre dans un contexte peu propice à la coopération. Entre conflits armés, guerres commerciales et montée du populisme partout dans le monde, qu'attendre donc d'un président américain qui qualifie la crise climatique actuelle de plus grande escroquerie du monde. Sandy Defin, vous êtes à Belém. Donald Trump boude donc cette COP30. Il a prévenu qu'il ne comptait pas envoyer de représentants de haut niveau à Belém.
Alors, difficile de savoir si Donald Trump va pratiquer la politique de la chaise vide ici à Belém ou bien assurer un service minimum. En juin dernier à Nice, lors d'une autre grande conférence des Nations Unies, celle sur les océans, Washington avait fini par envoyer quelques experts, une délégation technique discrète. Mais il y aura de toute manière des Américains à cette COP30, une délégation non officielle qui soutient l'accord de Paris, a prévu de venir en force, explique Gina McCarthy, conseillère climat de l'ex-président démocrate Joe Biden.
Nous avons une centaine de personnes dans cette coalition, notamment des gouverneurs, des maires et des représentants de communautés locales. On vient ici pour montrer au monde que les États-Unis sont toujours actifs et intéressés à aller de l'avant. Et on ne va pas s'arrêter à cause des décisions de l'administration Trump. Au contraire, ça nous donne de l'énergie et du vent dans les voiles.
Mais difficile de faire de l'ombre à Donald Trump qui qualifie le réchauffement climatique de canular. Washington sort de l'accord de Paris en janvier et n'hésite plus à freiner l'action climatique. Il y a 2 mois, les États-Unis ont empêché l'adoption d'un accord international important pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime en menaçant les pays de mesures de rétorsion.
Sandy Defin à Belém, au Brésil. Donald Trump reste donc à Washington, occupé à réchauffer ses relations avec le président intérimaire syrien, Ahmed al-Shara. Reçu demain à la Maison-Blanche, une visite officielle inédite. C'est la première fois qu'un président syrien est reçu à Washington depuis l'indépendance du pays en 1946, à la tête d'une coalition islamiste. Ahmed al-Shara, qui a renversé il y a presque 1 an maintenant le pouvoir de Bachar al-Assad, vient tout juste d'être retiré de la liste noire américaine du terrorisme. Il devrait d'ailleurs signer un accord pour rejoindre la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis. Sauf qu'en Syrie, Manon Chaplin, cette ouverture sur l'Occident ne plaît pas à tout le monde. En premier lieu, les éléments les plus radicaux.
Oui, cette rencontre bilatérale poursuit le processus de normalisation de la Syrie sur la scène internationale. Ahmed al-Shara a tout intérêt à s'ouvrir vers l'Ouest alors que le pays cherche des fonds pour se reconstruire, que les autorités souhaitent à tout prix contrôler les factions les plus radicales. Demeurent en Syrie des cellules dormantes de l'État islamique. Selon plusieurs sources sécuritaires, ces dernières se seraient redéployées à proximité des grandes villes. Elles auraient également profité du vide sécuritaire pour s'emparer d'une partie des armes et munitions de l'ancien régime. Selon ces mêmes sources, l'État islamique se baserait désormais sur un petit nombre de combattants bien entraînés, des groupes proxy qui partageraient l'idéologie du groupe tout en recevant un soutien logistique afin d'infiltrer les institutions gouvernementales. Plusieurs défis de taille demeurent, la persistance de plusieurs milliers de familles accusées d'être liées à l'organisation dans les camps et prisons du nord-est syrien, la présence également sur le territoire de milliers de combattants étrangers. Hier, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir mené depuis décembre décembre 61 raids, procédé à 71 arrestations. Les États-Unis ont salué cet engagement à lutter contre le terrorisme. La visite de Shara à Washington devrait justement aboutir à un accord afin d'intégrer la Syrie à la coalition internationale.
Et aux États-Unis, le trafic aérien va se réduire comme peau de chagrin. L'alerte émane du ministre des Transports américain, alors que le shutdown, la paralysie budgétaire se poursuit depuis début octobre, conduisant le régulateur américain de l'aviation à réduire le nombre de vols face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel. Pour l'heure, plus d'un millier de vols sont annulés par jour, mais cela devrait s'aggraver en début de semaine prochaine. Depuis le 1er octobre, près de 600 000 Américains se retrouvent en chômage technique, quand 700 000 employés fédéraux continuent de travailler mais sans recevoir de salaire. 18h05 sur France Culture et on part en Nouvelle-Zélande où la coalition conservatrice au pouvoir poursuit son offensive sur les droits des Maoris, peuple autochtone décimé au siècle dernier qui représente aujourd'hui 20% de la population. Dernière attaque en date, celle de la ministre de l'Éducation qui veut supprimer l'obligation faite aux écoles d'enseigner la culture et la langue maori. Une décision qui suscite de vives réactions parmi les enseignants et les parents d'élèves inquiets d'un recul du vivre ensemble. C'est un reportage de notre correspondante à Auckland, Emma Garbou-Lorenzoni.
Comme tous les établissements scolaires, la Freeman Bay School va devoir repenser son organisation pour s'adapter aux futures mesures gouvernementales, mais les membres de l'administration y voient surtout une régression.
Il y a 10 ans, personne ne disait kia ora, ça veut dire bonjour en maori. Pourtant, progressivement, c'est devenu quelque chose de normal à l'école. Nos élèves apprennent tous les jours des coutumes et des mots comme les couleurs ou les jours de la semaine. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde pour apprendre le maori, c'est notre singularité. Alors quand le gouvernement fait tout pour valoriser l'anglais, j'y vois juste du racisme. Ces politiques marginalisent les maoris.
Devant l'école, une mère d'élèves maori confirme le vivre comme une injustice.
Pourquoi ne voudrait-on pas apprendre la langue du pays dans lequel on vit? J'ai l'impression qu'il faut sans cesse leur rappeler que cette terre était la nôtre en premier et que nous avons été colonisés. C'est vraiment problématique.
Accusé une fois de plus de raviver les tensions dans le pays, le gouvernement conservateur se défend en affirmant que ces mesures n'auront aucun impact sur la réussite des élèves.
C'est une semaine de commémoration qui débute à travers le pays, 10 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis qui ont fait 132 morts. À Paris, les fleurs, les bougies sont réapparues dès vendredi, place de la République. Et ce matin, une course pour la liberté a été organisée du Stade de France au parvis de l'Hôtel de Ville, sillonnant l'Est parisien et les lieux où le 13 novembre 2015, des commandos appartenant au groupe terroriste État islamique tuaient 130 personnes et en blessaient des centaines d'autres. 1700 personnes ont participé à cette course en hommage aux victimes, organisée par l'Association française des victimes du terrorisme. Pour sa présidente Catherine Bertrand, elle-même rescapée du Bataclan, cet événement vise notamment à repenser et reparler de ces attentats autrement qu'avec la peur.
On se rend compte que quand on parle de terrorisme avec les Français, la plupart du temps ils se ferment. Ils ont chacun une histoire avec le 13 novembre ou avec d'autres attentats. On sent que la parole n'est pas libre, on sent qu'il y a de la peur en fait, encore, beaucoup de peur. Et en fait, avoir peur, c'est exactement ce que les terroristes voulaient pour nous. Donc moi, je suis là aussi pour dire, n'ayez pas peur, parlons-en et faisons en sorte d'être soudés et ensemble en fait. L'idée de commémorer par le sport, c'est justement de dévier un petit peu le côté tragique, sans pour autant oublier les victimes des attentats, évidemment. On n'oublie pas, on est là justement pour eux. Mais s'appuyer sur le sport, ça évite de nous tirer vers le bas. On a besoin d'être tiré vers le haut.
Vous y étiez, vous avez réussi à vous sortir de la peur ?
Je lutte encore. J'alterne entre peur et résistance, en fait. Donc il y a des moments où c'est le cerveau et le stress post-traumatique qui prend le dessus. Mais quand la peur ne prend pas le dessus, c'est la résistance qui rentre en jeu. Donc c'est un peu entre les deux.
Catherine Bertrand au micro France Culture de Mathilde Cariou. Sprint final à l'Assemblée nationale où les députés ont jusqu'à minuit pour débattre du budget de la sécurité sociale. Les débats doivent s'interrompre durant 2 jours avant l'examen mercredi de l'article sur la suspension de la réforme des retraites. Hier soir, la partie recette de ce budget, la Sécu, a été adoptée sur le fil avec les voix des députés socialistes notamment. Le Rassemblement national et la France insoumise ayant voté contre. 4 personnes, 3 femmes et une 3 trois hommes et une femme mis en examen ce soir après les heurts survenus jeudi lors du concert philharmonique d'Israël à la Philharmonie de Paris. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir introduit des fumigènes dans la salle de concert et tenté d'interrompre les musiciens. L'organisation Palestine Action France a revendiqué cette action de boycott culturel, disent-ils. La météo demain avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest du pays qui apportera des pluies éparses des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine. Les pluies seront plus soutenues sur les pays de la Loire, la Bretagne et la Basse-Normandie. Des éclaircies persisteront en revanche sur les Pyrénées, le pourtour méditerranéen. 5 degrés sont attendus à Strasbourg, au réveil 8 à Paris, Lyon et Bordeaux, 13 degrés à Brest et Ajaccio.